podcast France Culture.
Ils l'ont vécu. 26 avril 1986, la catastrophe de Tchernobyl. Quatrième épisode, le procès de l'atome. Première intervention officielle à la télévision de Mikhail Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, le 14 mai 1986.
Добрый вечер, товарищи.
Bonsoir, camarades.
Все вы знаете,
vous le savez tous,
недавно нас
le malheur nous a frappés récemment.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции.
Un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Она больно затронула советских людей.
Elle a durement touché les soviétiques et a inquiété la communauté internationale. C'est la première fois que nous nous sommes retrouvés confrontés à la force redoutable que représente l'énergie atomique quand elle échappe à tout contrôle.
Мы глубоко благодарны друзьям из социалистических стран, проявившим солидарность советским народам.
Nous exprimons notre profonde reconnaissance à nos amis des pays socialistes qui ont manifesté leur solidarité envers le peuple soviétique en cette heure difficile.
За искреннее сочувствие и поддержку. Мы выражаем добрые чувства.
Nous sommes également reconnaissants envers les personnalités politiques et publiques d'autres États pour leur empathie et leur soutien sincère. Nous exprimons nos meilleurs sentiments aux spécialistes et scientifiques étrangers qui se sont montrés prêts à nous prêter main forte pour surmonter les conséquences de l'accident. Je tiens à souligner l'engagement des médecins américains qui sont venus soigner les malades, ainsi que les milieux d'affaires des pays qui ont rapidement répondu à notre demande d'achat d'équipements techniques, de matériaux et de médicaments.
À l'occasion de la publication du premier rapport soviétique établissant un bilan sanitaire de l'accident, une conférence internationale de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, se tient en Autriche durant l'été 86.
À Vienne, les experts de 50 pays continuent à écouter les explications que leur fournissent leurs collègues soviétiques sur l'accident nucléaire de Tchernobyl. Hier, ils ont évoqué les retombées de la catastrophe sur la santé des populations, notamment les greffes de moelle osseuse et les cancers qui pourraient se déclarer à terme. La délégation soviétique a également révélé que plusieurs centrales du même type que celle de Tchernobyl ont été arrêtées pour vérification.
Journal de Vladimir Yatskevitch, docteur en sciences techniques et habitant de Gomel en Biélorussie.
20 mai. À la gare, nous avons vu des personnes déplacées, dont beaucoup sont âgées. Elles ont survécu à une guerre horrible, à l'occupation, et les voilà contraintes au seuil de leur vieillesse, alors qu'elles aspirent tant à la tranquillité, à abandonner leur foyer et à s'installer on ne sait où.
27 mai.
Le dernier bilan de la catastrophe de Tchernobyl fait état de 19 morts et autour de la centrale, dans un rayon d'au moins 30 km, toute vie a été gelée et pour longtemps.
28 mai. On est allé à l'église pour l'office du soir. Je n'oublierai sans doute jamais le visage dément d'une jeune femme qui répétait en boucle la même phrase « Rendez-moi ma terre ». Mais sa terre est morte, clôturée de barbelés et elle le sera encore pendant 200 ans.
10 juin 1987.
Tchernobyl, nous annoncions hier que les soviétiques avaient décidé de tenir le procès du directeur de la centrale dès le mois de juillet prochain. La centrale est devenue une véritable garnison militaire de 20 000 personnes, les réacteurs en bon état ont redémarré, on produit donc à nouveau de l'électricité, alors qu'à quelques centaines de mètres se trouve le cœur déchiré, la tranche numéro 4, recouverte d'une nappe de béton. Et Ulysse Gosset pour France Inter a pu observer toute la région dans un périmètre de 30 km.
C'est une véritable ville fantôme que nous avons découvert hier à quelques kilomètres seulement de la centrale de Tchernobyl. Imaginez des dizaines d'immeubles entièrement vides, de longues avenues désertes, des magasins à l'abandon, des jardins d'enfants, des écoles d'où ne parviennent plus aucun cri, et un immense stade où poussent des herbes folles. Et surtout, partout, partout, le silence absolu. On peut voir encore du linge pendant aux fenêtres, et pourtant, depuis 410 jours, la ville est inhabitée. Les autorités ont déversé partout des milliers de tonnes de sable pour remplacer la terre irradiée qui a été évacuée. Combien de temps Pripyat restera-t-elle interdite ? Des années et des années, nous a dit un responsable de la centrale.
7 juillet 1987, Tchernobyl. Jour de l'ouverture de l'audience de la Cour suprême du RSS. À Tchernobyl, on plaisante. C'est un procès ouvert dans une zone fermée.
Pour accéder au tribunal, il faut d'abord pénétrer dans la zone de 30 km, toujours interdite à la population.
L'on arrive dans la petite ville de Tchernobyl, fenêtre de l'autocar fermée et lunettes de soleil sur le nez, sécurité oblige. La salle d'audience se trouve dans l'ancienne maison de la culture, un petit bâtiment d'un étage où là aussi il faut prendre des précautions. On nettoie ses chaussures de la poussière chargée de particules avec de l'eau et l'on subit ensuite un contrôle de radioactivité. Les 6 accusés, les 3 juges, les témoins, les parents des victimes et les quelques journalistes présents ont tous été ainsi soumis au compteur Geiger. C'est à 13h que le procès a véritablement commencé. Un greffier a lu l'acte d'accusation, en fait une chronologie minutieuse de l'accident du 26 avril 86 qui a fait officiellement 31 morts et 237 blessés. Les 3 principaux inculpés risquent 10 ans de prison pour violation des règles de sécurité, charge aggravée selon la presse soviétique par leur incompétence et leur irresponsabilité.
En marge du procès, témoignage d'un habitant de la région.
J'y ai grandi sur cette terre-là, comme chacun d'entre nous, comme nous tous. Vraiment, je ne comprends pas. Si c'était une bombe qui était tombée, ou une guerre qui avait commencé, comment, en 1941, quand les gens n'étaient pas préparés, ne savaient pas ce que c'était, ni comment faire. Mais là, il s'agit de science. Ils ont passé tellement de temps à étudier tout ça. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi négligent alors qu'on fait ce type de travail, quand on a une telle responsabilité. Ça devrait aller jusqu'à l'exécution. Ou alors, il faut les envoyer là-bas, au 4e réacteur, pour qu'ils l'éteignent de leur corps, qu'ils donnent de leur corps pour rattraper ce travail. C'est comme ça que je le vois. Il y a tellement de gens qui en ont été victimes. Et l'État aussi.
Les 6 accusés ont rejeté la plupart des charges examinées par le juge de la Cour suprême. 3 d'entre eux ont même plaidé non coupables. Le responsable du réacteur numéro 4 accidenté, Anatoli Diatlov, a même lancé: il y a trop de personnes qui sont mortes pour que je puisse clamer ma complète innocence. Le ton était donné. Les 3 ingénieurs emprisonnés depuis 1 an ont même mis en cause, pour leur défense, la conception du réacteur qui a explosé. L'ancien directeur Bryukunov ne nie certes pas toute responsabilité dans le drame, pas plus que son adjoint, l'ingénieur en chef, qui se reconnaît partiellement coupable, mais la thèse principale de l'erreur humaine, présentée par les autorités, est désormais contestée par des spécialistes soviétiques. La construction du réacteur est aussi en cause. Élément d'autant plus important qu'une question demeure en attendant les témoignages. Quelques hommes peuvent-ils à eux seuls endosser les charges d'une catastrophe atomique? De Moscou pour France Inter, Ulysse Gosset.
Dans la salle d'audience, témoignage de la veuve d'Alexander Kudryavtsev, décédé le 14 mai 1986 des suites de son irradiation.
L'année dernière, nous étions tous sidérés par ce qui s'était passé. Tous sans exception. Le monde entier. Mais maintenant, après avoir entendu le témoignage des accusés, je suis tout simplement indignée. Indignée par ce qu'ils disent aujourd'hui. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas envoyé. Le 26 avril, j'ai envoyé ma fille à l'école, comme d'habitude, vers 8h du matin. À 9h, Sacha n'est pas rentré du travail. Il n'est pas arrivé avec le bus, comme c'était le cas d'habitude. J'ai tout de suite commencé à m'inquiéter. Ensuite, un voisin est venu me voir. Lui aussi travaille à la centrale. Il m'a prévenu de l'accident et m'a dit: s'il te plaît, ferme bien les portes et les fenêtres. Ne sors pas et ne laisse pas sortir les enfants. Ensuite, c'est ma fille qui est rentrée de l'école en courant vers 11h et m'a crié de la porte: maman, tu as entendu? Le réacteur a explosé. Peut-être que papa aussi. Je l'ai rassurée et j'ai commencé à me préparer pour aller à l'hôpital. Quand je l'ai vu, bien sûr, j'ai tout de suite compris que le pire était arrivé. Car il avait tous les symptômes d'une irradiation aiguë. Il était tout enflé, il avait des œdèmes, il était tout rouge. Apparemment, il avait quelque chose aux yeux parce qu'il lui faisait mal. Il n'arrêtait pas de les plisser. Mon mari a été décoré de l'ordre de l'insigne d'honneur. Bien sûr, c'est une haute distinction, mais mon chagrin est immense. Je veux que jamais, ni mes enfants, ni mes petits-enfants ne vivent ce que nous avons vécu.
29 juillet 1987.
À l'instant, je l'apprends, le verdict dans le procès des responsables de la catastrophe de Tchernobyl. 6 anciens responsables sont condamnés à des peines qui vont jusqu'à 10 ans de camp.
Les comptes humains semblent donc momentanément soldés, et dans ce contexte de guerre froide, l'industrie nucléaire peut repartir de l'avant. C'était d'ailleurs déjà le sens de l'intervention de Hans Blix, directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, au Club national de la presse à Washington, le 19 novembre 1986, soit 7 mois après l'accident.
Dans une modeste tentative de rendre cette introduction plus utile pour vous, je la synthétise en quelques grandes lignes que voici. Premièrement, il y a une organisation internationale qui fonctionne bien. Deuxièmement, Tchernobyl n'a pas été le pire accident de l'histoire. Troisièmement, les résultats en matière de sûreté nucléaire sont bons. Quatrièmement, l'énergie nucléaire est fiable et économique. Cinquièmement, le problème des déchets nucléaires est gérable.
Avis qui ne fait pas l'unanimité, comme en témoigne Béla Belbeok, ancienne ingénieure spécialiste de l'impact des rayonnements ionisants sur le vivant et chercheuse au commissariat à l'énergie atomique.
Pour mon mari et moi, il était clair qu'on se trouvait face à une catastrophe industrielle sans précédent et qui allait impliquer des conséquences sanitaires pour les populations. Au groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire dont nous sommes membres, nous avons reçu le premier rapport soviétique présenté lors d'une conférence internationale en août 1986 à Vienne. Il faut savoir que ce rapport soviétique, en ce qui concerne les conséquences, en particulier à long terme, de la catastrophe, c'est comme s'il avait été complètement censuré. Il est question, par exemple, que pour les 75 millions d'habitants de la partie européenne de l'URSS, cela causerait 1 500 morts par cancer de la thyroïde, et que dans les 70 ans à venir, il fallait compter entre 30 à 40 000 morts par cancer. Et ça, c'était insupportable pour les experts occidentaux. Il y a eu un marchandage pour faire diminuer ce nombre dû à cette catastrophe. Et c'est finalement des pressions qui se sont exercées dès le départ pour que ce rapport soit censuré, qu'on ne parle plus de ce chiffre. Aussi, il faut savoir, et c'est là que c'est une expérimentation qui n'avait jamais eu lieu, c'est que cette contamination allait durer.
Professeur Daniil Guzman, chercheur en cancérologie à Kiev.
Tchernobyl оказывал и будет в течение очень многих и многих лет оказывать.
Il ne fait aucun doute que pendant de longues années encore, Tchernobyl aura des conséquences néfastes sur la santé de la population, surtout en ce qui concerne les tumeurs et la leucémie. Elles frapperont non seulement les générations actuelles, mais encore celles à venir. L'expérience de Tchernobyl est unique. Ici, nous sommes confrontés aux radionucléides qui s'accumulent dans le corps humain. Ce sont des substances qui ont une très longue durée de vie et qui ont un effet cancérigène.
En tout, nous avons été 478 mineurs à creuser ce tunnel.
Alexandre Nievloudov, mineur, mobilisé pour creuser un tunnel sous le réacteur en feu.
Aujourd'hui, de ces 478, la moitié sont morts. Tous les autres sont handicapés au premier ou au deuxième degré. Le premier degré, ce sont ceux qui ne peuvent même plus bouger. Le deuxième degré, ils peuvent bouger et marcher, mais ils ne peuvent plus travailler. Alors au début, cela ne paraissait pas grave. Les médecins nous ont dit « Votre organisme combat les radiations, mais vous ne le ressentirez que dans 4 ou 5 ans. » C'est exactement ce qui est arrivé. À partir de 1991, on a commencé à mourir ou à devenir handicapé. Chaque année, nous enterrons 25 à 30 des nôtres. Nos gars ont même créé un fonds spécial pour les enterrements. Parce que les funérailles, c'est un petit plaisir qui coûte cher.
Quand on nous a évacués, j'ai quitté la ville de Pripyat en larmes. Je savais déjà que l'atome signifiait la mort.
Natalia Khodemchouk, veuve de Valérie Khodemchouk, ensevelie sous les décombres du réacteur la nuit de la catastrophe.
Aujourd'hui, je suis handicapée à cause de Tchernobyl. Je touche une pension d'environ 200 francs et j'ai de graves problèmes de santé. En 1991, l'État m'a donné 10 000 roubles en dédommagement de la mort ou la vie de mon mari. C'était juste à la veille de l'effondrement de l'URSS. Depuis, cette somme a perdu toute sa valeur et s'est transformée en quelques copecs.
Béla Belbeok.
Nous n'avons pas été assez offensifs. Nous avons laissé faire. Il n'y a pas eu de révolte ni dans les médias, ni dans les syndicats. Bon, nous portons une responsabilité dans ce qui se passe là-bas, en Ukraine, en Biélorussie. Et le prochain accident, personne ne peut prédire où il sera. Moi, je pense que les victimes de Tchernobyl vont mourir sans savoir ce qui les tue et dans les mensonges et l'indifférence de ceux qui sont responsables de leur mort.
Journal de Vladimir Yatskevitch.
30 octobre. Bien sûr, la population de Gomel ne sera pas déplacée. La ville est classée zone de réinstallation volontaire. Les habitants se sont calmés progressivement. Ils touchent un petit surplus, qu'ils ont bien évidemment surnommé la prime cercueil. Dans les environs de la ville, il y a des endroits plus ou moins délimités où l'on ne doit pas aller. La nourriture, le sol, l'eau, l'air sont constamment contrôlés. Mais qu'il est pénible pour un homme de vivre dans un monde où chaque brin d'herbe, chaque buisson semble être un ennemi.
Не половіть в полі колоски, не ходять люди, м'ячики не скачуть. В Чорнобиль повертаються сказки, самі себе розказують і плачуть. Il n'y a plus de blé sur les champs. Il n'y a aucun être humain qui marche, ni ballon qui sautille. Seuls les contes de fées reviennent à Tchernobyl. Ils se comptent et pleurent.
26 avril 1986, la catastrophe de Tchernobyl. Avec les voix d'Arnaud Carbonnier, Marlène Goulard et Régis Royer. Archivina Anne Delaveau et Delphine André. Merci à Dmitri Vinogradov et aux chaînes RBMK 5000 et Krushina Film pour les archives ukrainiennes, russes et soviétiques. Merci à Anna Lavrentieva pour son témoignage, ainsi qu'à l'historienne Sarah Grouchka pour le journal de Vladimir Yatskevitch et les traductions réalisées avec Eugène Priatko. Enregistrement, Antoine Tropé et Jérémy Kaufmann. Mixage, Pierre Henry. Coordination, Thomas Biachi, assisté d'Élodie Piel. Un podcast de Marie Chartron, réalisé par Laure-Hélène Planchet pour Ils l'ont vécu, à retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France.